Je ne sais pas si quelques personnes veulent poser des questions éventuellement. C'est possible pour 5 minutes, peut-être 10 minutes maximum. Je suis sûr que M. Travier sera d'accord de pouvoir y répondre.
Ah bah oui, mais attendez. D'accord, je le suis. Encore faut-il que je puisse.
Je voulais demander les risques de feu dans les cantons.
Ouais.
Ça vient généralement de l'écartement.
Ouais.
Des deux pierres.
Ouais.
Est-ce que c'était fréquent?
Non. Non, c'est pas fréquent. Parce que, alors ça, je vous garantis, ça, je l'ai vu, dans les tentatives au moulin de la Saumoulin, au moulin de Pont-de-Rastel, on avait remis à nous, on avait fait des essais de mouture, etc. Et si, par malheur, parce qu'on n'a pas mal expérimenté, on fait toucher ou approcher trop les meules que les graines se touchent, c'est une gerbe d'étincelles qui est absolument extraordinaire. C'est comme ça. Voilà, c'est, ben oui, surtout qu'il y a des meules qui sont totalement en silex. Alors, celle en granit, c'est le quartz. C'est pareil. Hein. Et donc, effectivement, mais alors ça, un meunier expérimenté ne le fait jamais. Il ne le fait jamais parce que ces meules, il peut les repiquer après. Hein. Si on fait ça, bon, tous les grains s'abîment. Les grains, frottant sur la farine, sur les grains, ils les écrasent, ça c'est bien. S'ils frottent sur l'autre meule, ils se bousillent. Donc, on tue la surface de la meule. Donc, ça se faisait que très... Ça n'arrivait que très, très, très rarement. Après, la farine peut chauffer, si effectivement... En fait, l'écartement entre les deux meules permet d'obtenir une mouture plus ou moins fine. Et effectivement, si on fait tourner, par exemple, trop vite, qu'on engrune pas suffisamment avec une mouture très très fine, ça peut chauffer et effectivement arriver à enflammer la farine. De là à ce que la farine enflamme les arêtes, le coffre en bois qui est autour, il faut vraiment que le meunier, il est ou bu un coup de trop, ou qu'il fasse la sieste. Voilà. Meunier, tu dors, là, c'est la chanson. Voilà. Il faut vraiment qu'il soit en dorme. Non, je ne pense pas que ce soit très fréquent.
Est-ce que le moulin de riz aussi servait aux châtaignes aussi?
Oui, ah ben, on en a tout à l'heure.
Oui, mais c'est sûr.
On y est allé. Ah non, mais il y a le pisaille qui a été installé.
Alors, une certitude.
Vraisemblablement, c'est un peu à la fin de l'époque, période du moulin qu'on a fait ça, parce qu'on a emmanché un axe sur l'axe des meules pour monter à l'étage supérieur. Et là, on a imaginé, alors c'était quand même mieux conçu que lorsqu'on le faisait dans la meule à gruau, parce que là, ils avaient mis le baquet dans lequel ça se fait, qui est un baquet en bois, la cuve, il avait monté sur des supports, ce qui fait que quand c'était décortiqué, en ouvrant une trappe, il sortait les châtaignes qui tombaient dans le sac et ça repartait. Là, dans le moulin à gruau, ben, il faut, avec un seau, avec quelque chose, une pelle, puiser les châtaignes, les ensacher, c'est un peu plus long. Donc ça avait été très très bien combiné, mais je pense que c'est relativement tardif.
Mais on ne faisait pas de la farine.
Ah mais non, là on décortiquait les châtaignes, c'est un pisaille, il y a encore le râteau avec les dents de fer, alors décortiqué, lorsque les châtaignes ont été séchées à la claine, les peaux sont crevelues, elles ont encore leur peau, donc il faut briser ces peaux pour faire le châtaignon, la châtaigne sèche, la badjane, il y a plusieurs techniques pour décortiquer, il y a le sac, on tape avec le sac sur le soude de bois, il y a des chaussures avec des pointes, et au 19e on a inventé des machines, soit un axe horizontal avec des pointes, et on met les châtaignes à l'intérieur du cylindre et on les décortique, soit un axe vertical avec un râteau et qui tourne et qui décortique les châtaignes. Donc là, on ne fait que briser les peaux. Après, on va les mettre dans un sac, les amener, le faire soit à la main, au vent, mais surtout au tarare, comme pour les grains. On va évacuer les peaux pour obtenir que le châtaignon...
Moi, je me rappelle avoir vu papa apporter des châtaignes à ce moulin.
Voilà. Et alors ça, ces châtaignes-là, après, là, on va les stocker, les garder, et toute l'année, on va en faire la soupe, on va en faire le badjan. Mais alors, comme ce sont des techniques qui sont un peu violentes, il y a des châtaignes qui se brisent. Et donc, on triait les châtaignes entières, on avait des drales, des cruvelles, qui étaient en général faits en éclisse de châtaignier. Et on triait les châtaignes grosses qui étaient restées entières, des brises qu'on appelait la brise ou brisette, et qui étaient réservées à la nourriture des animaux et du cochon en particulier. Et en général, Quand on passait à la meule pour faire une farine pour les animaux, ce sont ces brises que l'on passait au moulin et non pas des châtaignes entières. C'était des brises que l'on passait au moulin.
Mais je pense qu'il n'y a aucun souvenir à ce que dans les Cévennes, on mange de la farine. On travaille la farine de châtaigne parce que si on recherche un peu dans les gâteaux anciens, il n'y a pas de.
Non, mais...
Elle rentre pratiquement jamais dans
non,
la.
Non, elle ne rentre pas. Non, mais vous avez raison.
Parce qu'une farine, c'est... la farine de châtaigne, c'est doux. À part ça... pour faire des gâteaux.
C'est un fantasme actuel. Oui, alors en Corse, c'est c'était le cas.
Un
versement de la Corse. Alors, il y a une autre. J'ai oublié de vous le dire. Une autre bonne raison. Pourquoi on ne faisait pas de la farine pour panifier la farine? D'abord parce que dans tous nos vincelles, ils avaient un peu de seigle qui permettait de façon vivrière à produire le seigle dont on avait besoin. Une année de disette, on en achetait peut-être un peu, mais on avait quand même sa production de céréales suffisante. Et puis surtout, sachant qu'on pouvait manger la châtaigne en soupe, la batchane, et qu'on s'en nourrissait, parce que ça, c'est aussi nourrissant que si on la fait, si on la panifie. Pourquoi aller faire des frais alors qu'on a une économie qui est extrêmement difficile? Pourquoi aller payer la mouture à un meunier alors qu'on peut la consommer sans faire ces frais? Donc je veux dire, c'est un peu aberrant d'imaginer ça. Alors, ceci étant, les deux exemples que je vous ai dit, il y a 50 ans de recherche, j'ai trouvé que dans les archives écrites, montrent que, et disent bien que c'est exceptionnellement une année catastrophique où on n'a pas de céréales, on n'a pas assez, qu'on a pu mélanger un peu de châtaigne avec des céréales pour faire du pain. Mais c'est exceptionnel. C'est pas quelque chose de traditionnel ni de récurrent. Pardon, j'ai interrompu quelqu'un.
Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pourriez dire sur la vie des meuniers proprement dit? Quel était leur statut? Quel était leur rapport avec la population de leur village? Comment,
ouais, alors,
est-ce qu'ils étaient propriétaires de leur moulin, etc.?
Alors... ça, c'est une question qui... On pourrait recommencer une conférence d'une heure ou deux. Le moulin, le meunier... alors, à l'origine, au Moyen-Âge, souvent, à mesure où le moulin appartenait au seigneur, le meunier était un employé du seigneur. Mais rapidement, comme je l'ai dit, les Cévenols sont sortis de cette féodalité et ont créé... Alors, il y a des meuniers... qui ont des moulins importants, qui n'ont pas le même statut que le petit meunier de quartier, comme celui de Rieussé, certainement. Mais les meuniers, qu'ils soient des moulins céréaliers, comme des moulins à huile d'ailleurs, ont très mauvaise réputation. On dit voleur comme un meunier. Les meuniers, effectivement, ont mauvaise réputation. Parce que s'ils ne sont pas très honnêtes, ils peuvent voler assez facilement. C'est-à-dire que sur la quantité de farine qu'ils restituent, ils peuvent prélever une part un peu plus importante que le droit de mouture que normalement ils devraient exiger. Et en plus, comme le meunier est obligé de passer par là ou par la porte, généralement c'était des gens qui, dans la classe sociale, c'était relativement élevé, et pour quelqu'un, un garçon, épouser la fille du meunier, c'était une ascension sociale, c'est indéniable. Donc le meunier avait cette place dans la société, d'être quelqu'un un peu au-dessus du commun des mortels, et même au-dessus des autres artisans, je veux dire, c'était vraiment... Les boulangers ont eu un peu ce statut au moment où il y a eu des boulangers dans les communes, mais le meunier, vraiment... nettement au-dessus en termes de rang social et en plus une réputation de malhonnête qui n'est pas systématique. Il y avait comme dans toutes les professions, des meuniers honnêtes et malhonnêtes, mais voilà, la tradition cévenole lui accorde volontiers cet aspect. Alors, très facile, effectivement, le dernier arrivé en fin de course, il augmente l'écartement des meules et il fait un emprunt d'un centimètre et demi, et bon, qui va faire tourner après quand le gars est parti, et il récupère la farine. De la même façon, le meunier des moulins à huile, vous savez qu'il y a l'huile qui allait aux enfers, la plus mauvaise, ça c'était celle qui payait le meunier. Mais l'huile, on l'a fait décanter dans des cuves au-dessus de l'eau. L'huile flottant, le meunier récupérait avec une feuille de cuivre, un disque de cuivre, récupère l'huile sur l'eau et la met dans un grand entonnoir, dans le bidon, pour son propriétaire. Et comme à cette époque-là, on traitait les olives du propriétaire, on lui restituait son huile à lui. Et souvent, les meuniers avaient un petit geste de tremblote comme ça, mettant en émulsion un peu de l'huile dans l'eau, qui après partait aux enfers où il faisait décanter et qui augmentait son huile à lui, qui était de l'huile lampante qu'il vendait aux épiciers pour les lampes. Mais bon, il n'empêche que voilà. Donc c'est pour ça qu'on considérait qu'ils soient bladiers ou oliers, les meuniers étaient feuillés. C'est genre,
ça n'a rien à voir avec les chaussées.
Que pensez-vous, quelle est votre opinion par la loi des lois sur l'eau qui oblige à démolir toutes les chaussées pour sous prétexte de recréer la continuité hydraulique?
C'est un scandale.
C'est un scandale.
C'est un scandale et alors c'est qu'on est un peu impuissant par rapport puisque c'est la loi. Mais pour faire toutes les pressions possibles imaginables où je peux, auprès notamment de des élus, du législateur, pour revoir cette loi inique. Elle est inique à plusieurs titres. Elle est inique pour les gens qui l'utilisent encore, ils sont peu nombreux. Plus de 80% de ce dispositif hydraulique ont disparu, de toute façon, ce qu'il en reste est extrêmement minime. Et pour ceux qui l'utilisent et qui en vivent aujourd'hui, alors il n'y a plus de meunier, mais on irrigue encore, on arrose. Et donc, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Ensuite, c'est inique pour le patrimoine, parce qu'il nous reste tellement peu de patrimoine que le peu qui reste entretenu, encore en bon état, etc., va disparaître effectivement, puisque pour l'instant, si le seuil fonctionne, ils ont le droit, sauf qu'il faut qu'ils respectent le débit, les débits, bon, etc., donc, qui sont impossibles, je vais y revenir, à respecter. Mais s'ils ont des soucis au niveau de la chaussée qu'il faille la restaurer, c'est là que la difficulté et les hasards vont disparaître, puisqu'on ne pourra pas les restaurer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, petit à petit, va faire disparaître ces chaussées. Alors, sous un principe, effectivement, de la continuité, vous avez raison, sauf qu'il me semble qu'à Cévennes, les truites ont toujours remonté les paissières, y compris les tankates dans les ruisseaux qui sont quelquefois beaucoup plus hauts que les paissières. Et même presque au contraire, pour ce qui est de ces chaussées que sont les tankates, qui permettent d'avoir un débit d'étiage supérieur parce qu'il y a de l'eau qui s'emmagasine dans le sol et qui ont un débit. Donc pour la population piscicole, au contraire, c'est même intéressant. Donc on comprend.
Des espèces invasives qui vont pouvoir remonter.
On ne comprend pas. Non, mais les espèces habituelles qui grimpaient, bon, la truite, le barbeau méridional. L'anguille, rien n'a empêché les anguilles d'aller se reproduire, d'aller et venir comme partout ailleurs et d'occuper nos rivières sévenoles. Bon, donc, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas très sérieux. Alors, ce n'est pas sérieux aussi pourquoi ? Tout simplement parce que, bon, ce sont des... Alors, la loi part d'un bon sentiment, si
vous... 1500 euros quand même à chaque fois qu'on compte.
La loi part d'un bon sentiment, c'est pour protéger l'environnement, pour l'eau, et c'est vrai que dans les décades à venir, l'eau sera un vrai problème et qui donc la protéger, c'est pas complètement aberrant. Sauf que ceux qui ont pondu la loi, pour la Loire, elle est peut-être bonne la loi, mais pour les cours d'eau torrentiels méditerranéens, elle n'a aucun sens. Le débit réservé, même seulement à 10%, n'a pas de sens. La rivière elle-même ne le respecte pas son débit. Elle n'a pas le débit réservé elle-même. Bon, donc, alors, on essaie de forcer le pas pour avoir des dérogations, pour monter l'air. Parce que, et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que la loi elle-même, au lieu de l'expliquer convenablement, de dire, oh, vous savez, il faudrait peut-être faire attention quand il y a trop d'étillage, pas trop, enfin, voilà, avoir un discours... On est arrivé du jour au lendemain chez les utilisateurs, on contrôle le débit, vous n'avez pas le débit réservé, et c'est une amende qui coûte extrêmement cher, Si vous l'acceptez, on vous diminue le prix de l'amende, donc dans ce pas, mais vous reconnaissez que vous êtes sainte. Enfin bon, c'est une procédure, l'ONEMA, et s'il y a quelqu'un de l'ONEMA dans la salle, je serais heureux, l'ONEMA a employé des méthodes scandaleuses dans ce domaine-là. Ouais, voilà.
Plusieurs,
être heureux de vous en revenir. Merci.